dans l'épître de Paul aux Romains, à partir du chapitre 1er, à partir du verset 9. Dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 1er, à partir du verset 9. Paul écrit ceci. Dieu, que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis, ou plutôt que nous soyons encouragés, ensemble, au milieu de vous, par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux savants et aux barbares, aux grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce que en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Voilà, dans ces quelques versets de l'épître aux Romains, qui se situe au tout début de cette lettre, nous découvrons Paul qui s'adresse à l'église de Rome. Il écrit ici à une église qu'il n'a jamais visitée, il connaît plusieurs chrétiens, membres de l'église de Rome, mais lui-même n'a jamais eu l'occasion de se rendre sur place. Pourtant, il a souvent aspiré à le faire. Il l'écrit ici, il aspire ardemment à se trouver présent au milieu de cette église de Rome pour leur communiquer quelque chose à travers son ministère apostolique et d'être lui-même encouragé au contact de ces chrétiens. Et avant cette visite à laquelle Paul aspire, eh bien, il va lui adresser à cette église de Rome par cette lettre, cette épître, dans laquelle, de manière systématique, de manière complète, de manière méthodique, n'oublions pas que Paul est de formation un rabbin, eh bien, un exposé de l'Évangile qu'il prêche, un exposé du plan de salut de Dieu pour l'homme. Et dès ces versets que nous avons lus, nous voyons que Paul annonce le sujet, en quelque sorte, qu'il va traiter, ce qui est au centre de son enseignement, au centre de sa prédication, c'est l'Évangile de Dieu, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et il va développer, pendant toute cette épître aux Romains, cette prédication de l'Évangile, il va montrer, établir ce qu'il enseigne, les vérités fondamentales du salut, et pour étayer, pour soutenir ce qu'il va affirmer, eh bien nous voyons que Paul va citer ici un verset de l'Ancien Testament. C'est un passage du livre du prophète Habacuc. Paul va affirmer qu'il n'a pas honte de l'Évangile parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, parce qu'en lui, dans l'Évangile, est révélée la justice de Dieu par la foi, pour la foi, selon qu'il est écrit, c'est ce verset, « Le juste vivra par la foi ». Un verset qui a une importance particulière dans l'Écriture, puisque nous le trouvons cité ici, nous le trouvons dans le livre du prophète Habacuc, et puis on le trouve encore deux fois dans le Nouveau Testament. Or, si Dieu insiste sur tel ou tel aspect de la vérité, il y a certainement une raison à cela. Dieu ne se répète jamais en vain. Et je vous propose ce matin un petit parcours dans l'Écriture pour voir quelle est l'importance, la signification de cette affirmation, de ce verset cité à tant de reprises dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Le juste vivra par la foi. Alors, que veut dire l'Écriture lorsque ce verset apparaît ici, sous la plume de l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, « Le juste vivra par la foi ». Bien, étant donné que l'Épître aux Romains traite de cette question si importante du salut, d'une certaine manière, on peut considérer que toute cette épître, toute cette lettre répond à cette question. Alors, elle a été formulée il y a bien longtemps par un homme dans l'Écriture. Comment un homme sera-t-il juste devant Dieu ? Voilà, comment un homme pourra-t-il être agréé de Dieu ? C'est important d'être juste devant Dieu, car il est écrit que si les justes entreront dans la vie éternelle, les injustes seront jugés justement et auront part au juste jugement de Dieu. Et Paul, dans cette épître aux Romains, montre que l'homme sans l'Évangile n'a aucun moyen, aucune possibilité sur cette terre, pas plus que dans le ciel, d'être trouvé juste devant Dieu. Que l'homme sans l'Évangile de Christ, à cause de sa propre corruption morale, à cause du péché qui habite en lui, est coupable devant Dieu et il est sous la colère de Dieu. Et Paul établit que c'est vrai, des Juifs, vous voyez, s'adressaient à nombre d'auditeurs qui avaient grandi, évolué dans la religion juive, qui appartenaient au peuple d'Israël. Et c'est pourquoi nous avons entendu Paul affirmer que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec. Alors le Juif, c'est celui qui, comme Paul, avant de recevoir Christ comme son sauveur, le Juif, c'est celui qui a la loi de Dieu. Loi divine, commandements de Dieu qui sont excellents. Loi de Dieu qui nous dit, qui dit à l'homme, si tu pratiques ces choses fidèlement, sans jamais t'en écarter, alors tu auras la justice de Dieu en partage, tu auras la faveur de Dieu en partage. Mais si l'homme faillit sur un seul point, c'est la condamnation. Vous voyez, maudit soit, on reviendra sur cette parole, celui qui ne met pas en pratique tout ce qui est écrit dans la loi de Dieu. Puis, les Juifs et les autres. Paul va montrer que même ceux qui n'ont pas connu la loi de Dieu, qui n'ont pas grandi comme les Juifs, dans un milieu où on l'étudiait, où on la connaissait, où on la développait, les autres hommes, quand même, chaque homme, chaque femme, possède dans sa conscience l'œuvre de la loi de Dieu. Et eux aussi, nous aussi, par nature, nous avons ce principe de la conscience qui agite en nous et qui nous montre, lorsque nous agissons bien, mais aussi qui nous reprend lorsque nous agissons mal. Et Paul démontre, si notre cœur est honnête, nous reconnaissons qu'il a raison, que sur le plan de ce que nous produisons, de nos efforts pour pratiquer le bien et pour nous éloigner du mal, nous avons tous failli à tant et tant d'égards, sur tant et tant de points. Et voilà pourquoi il est tellement important pour nous et pour Paul d'annoncer cette bonne nouvelle de l'Évangile, puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, maintenant sans la loi, et manifester la justice de Dieu. Comment un homme sera-t-il juste devant Dieu? Maintenant sans la loi et manifester la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Vous voyez, ce n'est pas du tout contraire à tout ce que les prophète et la loi avait enseigné jusqu'à la venue de Jésus-Christ, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour quiconque croit, et il n'y a pas de distinction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Évangile nous annonce, l'Évangile est une proclamation du fait que Dieu nous a aimés. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus-Christ, qui de toute éternité existait dans le ciel, forme de Dieu, a paru sur la terre comme un simple homme, sans cesser pour autant d'être parfaitement Dieu. Il nous a représentés. Il a accompli parfaitement, lui, la loi que nous avons transgressée. Il l'a accompli dans sa vie. Il l'a accompli même dans les ordonnances les plus minutieuses de la loi de Moïse. Il l'a accompli pour nous. Que nous n'avons pas fait, il l'a fait à notre place, comme notre représentant. Et comme il nous représentait, alors que nous avions bafoué, transgressé la loi de Dieu, il fallait aussi que le Fils de Dieu accomplisse la loi par sa mort. Vous voyez, c'est une loi transgressée qu'il venait accomplir, transgressée par nous. Et lorsqu'il livre sa vie sur la croix du calvaire, l'Écriture rend ce témoignage qu'il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et que, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et lorsqu'il ressuscite, ça fait aussi partie de l'Évangile, c'est nous. Ce sont les hommes et les femmes qui sont prêts à croire en lui, qu'il ressuscite, auquel il rend la vie, en lui et avec lui. Et quand Paul écrit aux Romains, il dit, parole que j'apporte, Voilà la parole qui accomplit tout ce qui a été prophétisé, tout ce qui a été annoncé, tout ce qui a été dit. Et qu'est-ce qu'il faut faire alors pour recevoir le bénéfice? Comment un homme sera-t-il juste devant Dieu? Nous avons reconnu notre faillite, notre conscience nous rend témoignage que nous avons failli à plusieurs égards. Nous reconnaissons que nous ne pouvons pas être agréés de Dieu sur la base de ce que nous produisons, que ce soit notre pratique d'une loi que nous connaissons, que ce soit simplement sur la pratique du bien à laquelle notre conscience rend témoignage. L'Évangile nous annonce qu'il faut croire. Le salut, c'est Christ qui l'a accompli pour nous. Tout a été accompli par lui, en lui. Ce qu'il nous revient de faire en tant que pécheurs, c'est de recevoir le bénéfice de ce que Jésus-Christ a accompli, de la justice que lui nous communique, que Dieu nous impute lorsque nous plaçons notre foi en lui. Le juste vivra par la foi. C'est ce message glorieux. Nous pourrions nous adresser à un ami ce matin, vous qui vous sentez coupable, souillé, séparé de Dieu. Recevez le don gratuit de Dieu en Jésus-Christ, le don de la vie éternelle. Venez à Dieu tel que vous êtes. Confessez-lui et à lui seul vos fautes, vos faillites. Et recevez aujourd'hui le don de la grâce de Dieu. Celui qui croit en Jésus-Christ a la vie éternelle. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux et celles qui sont en Christ. Dieu ce matin désire tirer un trait sur votre passé, sur votre vie, loin de Dieu, et vous remettre vos fautes pour vous adopter comme son fils, sa fille. Nous devenions fils et filles de Dieu par la foi en Jésus-Christ, à celui qui croit en lui, à ceux qui croient en son nom. Bien, l'Écriture rend ce témoignage qu'il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Voilà le message de ce verset. Le juste vivra par la foi et recevra la vie de Dieu, la réconciliation, la vie éternelle. Et puis on trouve ce verset dans une deuxième épître du Nouveau Testament, c'est l'épître de Paul aux Galates, je vous propose de le découvrir, au chapitre 3, dans cette épître de Paul aux Galates. Voilà, épître de Paul aux Galates, chapitre 3, à partir du verset 1er. Épître de Paul aux Galates, chapitre 3, à partir du verset 1er. C'est Paul qui l'a encore écrit à ses chrétiens, et voilà ce qu'il leur dit. Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux desquels Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Celui qui vous accorde l'esprit, qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Aussi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham : toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit : maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la foi, par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Voilà, à nouveau, c'est ce même verset, c'est cette même affirmation de l'Écriture que Paul va citer ici en s'adressant aux Galates. On retrouve dans le texte que nous avons lu bien des choses que nous avons eu l'occasion de mentionner en réfléchissant sur l'Épître aux Romains. Mais ici, vous voyez, le contexte est différent. Nous l'avons dit, Paul n'avait jamais visité l'église de Rome. Ici, Paul s'adresse à des chrétiens qu'il connaît. Ce sont des hommes et des femmes qui ont reçu l'évangile des années plus tôt, après l'avoir entendu par la bouche de Paul lui-même. Leur cœur a été touché, ils se sont repentis de leurs péchés, ils sont convertis à Christ, ont été baptisés d'eau. Ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, puisque Paul parle de Dieu qui leur accorde l'esprit. Ils ont vécu des œuvres surnaturelles de Dieu, des miracles ont eu lieu dans cette église des Galates. Puis, au bout d'un moment, voyez les années passant, il y a eu des ordres, en l'occurrence des Juifs, voilà, qui sont arrivés dans cette église et qui ont commencé à enseigner de manière différente de l'apôtre Paul. Et c'était subtil. Parce que le discours tenu par ces docteurs consistait à dire, oui, pour être sauvé, pour vous maintenir dans le salut de Dieu, oui, il faut l'évangile. C'est l'évangile. Mais il faut rajouter quelque chose. Il faut rajouter quelque chose à l'évangile. Il faut rajouter un petit peu la loi. Par exemple, on encourageait les Galates à se faire circoncire, alors que la plupart d'entre eux étaient issus d'un milieu non-juif. Il fallait accomplir aussi quelques œuvres qui, d'une certaine manière, avaient leur mérite. Il fallait revenir à certaines ordonnances de la loi de Moïse. C'était l'évangile plus quelque chose. Et on s'aperçoit que Paul, lorsqu'il écrit aux Galates, va avec une grande fermeté, pendant toute cette épître, dénoncer l'enseignement qui était dispensé par ces hommes. Vous voyez, l'Évangile, la parole de Dieu, est une communication à laquelle on n'ajoute rien. On ne retranche rien, la parole de Dieu, on n'y ajoute rien non plus. L'Évangile est appelé à être conservé tel qu'il a été entendu, tel qu'il a été annoncé dès le commencement. Et si vous ajoutez quelque chose à l'Évangile, vous renversez l'Évangile. Et c'est comme un bon verre d'eau. Hein? Voilà, vous ajoutez une goutte de poison. Et voilà, tout est empoisonné. Et c'est pourquoi il nous faut veiller à ce que nous écoutons, à ce que nous entendons, à ce que nous lisons, pour nous maintenir dans la foi, dans la parole de Dieu, telle qu'elle a été annoncée, dès le commencement. Et quand bien même nous ne serions pas exposés directement au danger de faux docteurs juifs là, qui viendraient au milieu de nous, ben, il faut reconnaître que dans le cœur de l'homme, il y a quand même cette tendance, si nous ne veillons pas à nouveau, à nous laisser entraîner, à mélanger un peu le principe de la loi au principe de la grâce. Et voyons, il y a ce principe-là qui est ancré au fond du cœur humain et qui nous amène parfois à croire, si nous ne veillons pas, qu'au bout de 10 ans, 20 ans de conversion, oui, Dieu nous a bénis à cause de Jésus-Christ, mais il nous bénit aussi parce qu'on est devenu de bons chrétiens. Vous voyez, on va régulièrement, on est là ce matin à l'église, on lit notre Bible. On a pu témoigner cette semaine à un voisin. Voilà, et à cause de tout ça, Dieu nous bénit. Mais non. Vous voyez, Dieu nous bénit à cause de Jésus-Christ, son Fils, et de son œuvre uniquement. C'est le seul fondement. C'est le seul fondement de notre foi. Et c'est en nous maintenant sur ce fondement que, par la grâce de Dieu, sans doute, nous serons rendus capables d'être fortifiés en assistant au culte comme ce matin, d'être bénis lorsque nous nous approcherons de Dieu dans la prière, du trône de la grâce, d'être utiles pour apporter une parole à un perdu, un homme ou une femme sans espérance qui a besoin d'entendre parler de l'amour de Dieu. Les Galates qui avaient succombé à cette tentation, qui avaient mêlé le principe du mérite, les œuvres à l'Évangile, ben, ils se replaçaient sous la loi, se replaçaient sous un esclavage. Et on le voit dans l'Épître. Un jour, une chrétienne, voilà, qui avait besoin de faire des progrès dans la foi, a dit ceci. « Ah, ce matin, je n'ai pas lu ma Bible à l'heure où je l'ai lu d'habitude, et Dieu m'a puni, mon gâteau a brûlé dans le four. » Alors, ça nous fait sourire, mais vous voyez ce principe. Le cœur de l'homme est prompt à mêler ce principe de la loi. Alors, bien sûr, c'est vrai que c'est important de pouvoir user envers nous-mêmes de discipline pour lire la parole de Dieu. Parfois, on n'a pas envie et voilà, il y a des efforts, il y a des luttes, il y a des combats. Mais non, le gâteau n'avait pas brûlé dans le four à cause de ça. Dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Voyez, nous avons nos écarts. Le chrétien, malheureusement, dans une journée, fait bien des faux pas. Et il nous est dit que, voyez, il convient là de marcher dans la lumière, comme Dieu est dans la lumière. De confesser nos péchés, voyez, de les reconnaître dès que nous en sentons, que nous en voyons, que nous en reconnaissons l'existence. Et que si nous le faisons, Dieu est fidèle et juste pour nous purifier de toute iniquité. Si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Demeurez en lui. Voyez. Et demeurer en lui, c'est demeurer dans sa grâce. Au milieu de cette église de Galate, certains avaient perdu leur assurance. On peut imaginer, sans forcer le texte, que certains en étaient venus à douter de leur salut. Ils se replaçaient sous la condamnation. Voyez, maudit est celui qui n'accomplit pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Voilà. Tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Puis, loin d'être devenus plus saints, eh bien, ces Galates s'enfonçaient, voyez, dans un esprit de jugement, de légalisme au sens propre du terme, à tel point qu'il nous a dit qu'ils se dévoraient les uns les autres. Vous voyez, ce n'était pas du tout un progrès. Et Paul, par cet épître, va les ramener au principe qu'ils n'auraient jamais dû quitter. Comme vous avez reçu Jésus-Christ, marchez en lui, écrira-t-il ailleurs aux Colossiens. Le premier jour, nous avons été sauvés par sa grâce, et jusqu'au dernier jour, ce qui nous maintient, voyez, debout, c'est la grâce de Dieu. Nous nous attachons à Jésus-Christ et à Jésus-Christ seul. C'est lui, dans sa grâce, qui peut nous rendre capables, voyez, d'aspirer à l'honorer. Fortifiez-vous dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Un troisième texte. On retrouve ce verset du livre d'Habacuc, cité dans l'Épître aux Hébreux cette fois. Je vous invite à découvrir ce texte dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, et à partir du verset 32. Hébreux, chapitre 10, verset 32. Voilà, Paul écrit. Souvenez-vous donc de ces premiers jours où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme en spectacle aux opprobres et aux afflictions, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin que, après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. On a donc une troisième citation de ce verset du livre d'Habacuc. L'Épître aux Hébreux est-elle adressée à des chrétiens d'origine juive, probablement rassemblés à Jérusalem? Ils ont cru à la prédication des premiers apôtres, ils ont cru que Jésus était le Messie promis, le Sauveur du monde, ils se sont convertis, ils ont reçu le pardon, la vie éternelle, puis malgré des persécutions, leurs biens leur ont été enlevés, voilà, ils ont tenu ferme. Mais avec le temps, exposés à d'autres épreuves, au rejet d'une partie de leur famille juive qui n'a pas reconnu le Seigneur, voyez, on sent qu'une certaine lassitude, un découragement s'était installé dans l'église des Hébreux. Et on a l'impression qu'ils n'avaient plus accès même au temple, hein, on ne leur laissait plus cet accès. Ils ne pouvaient plus, voyez, offrir des sacrifices, ils ne pouvaient plus avoir ce contact avec les sacrificateurs, tout ceci faisait partie de leur vie passée en tant que juifs, pieux. Et voyez, certains en étaient arrivés à se détourner, abandonner le rassemblement de l'Église, abandonner même la foi. Et l'auteur de l'Épître va s'adresser à eux pour leur communiquer quelque chose de la part de Dieu. Et qu'est-ce qu'il va faire? Bien, il va élever Jésus-Christ. Voilà, c'est ça qui est de nature à fortifier notre foi. Il va leur montrer que Jésus-Christ est élevé au-dessus des anges, que la personne, l'œuvre de Jésus est supérieure même à l'œuvre de Moïse. C'est important, Moïse, pour ces Juifs. Que l'œuvre de Jésus était supérieure encore par ce qu'il accomplit pour nous à l'œuvre de Josué. Qu'en tant que véritable sacrificateur de Dieu, grand sacrificateur, Jésus-Christ est infiniment plus élevé qu'Aaron. Que les sacrifices de l'Ancienne Alliance n'étaient qu'une image, que toutes ces choses-là de l'Ancien Testament n'étaient qu'une image de ce qui devait venir, que tout trouvait son accomplissement en Jésus-Christ. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux va leur dire, vous voyez, peut-être que vous n'avez plus accès au temple, peut-être que vous êtes mis à l'index, mais vous avez des biens meilleurs, ceux qui durent toujours. Alors il les exhorte, parfois pour les consoler, dans l'Épître aux Hébreux, il y a d'extraordinaires promesses qui sont rappelées. Parfois il y a des mises en garde, parfois c'est sévère. Mais le message que cet auteur leur adresse à ces Hébreux, c'est « Ressaisissez-vous, persévérez !» Alors d'un côté, il y a le Seigneur Jésus, tout ce qu'il a accompli, ce sacrifice parfait par lequel le ciel nous est ouvert. Jésus qui accomplit tous les types de l'Ancien Testament. Il est lui, le grand souverain sacrificateur. Il nous ouvre non pas les portes ou le voile d'un tabernacle terrestre, mais le ciel lui-même, la présence de Dieu. Puis de l'autre côté, il y a nous, avec nos misères, nos découragements, nos coups durs, tout ce qui peut nous arriver. Alors, qu'est-ce qui peut nous unir? Qu'est-ce qui peut nous unir à Christ? C'est la foi. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous montre que c'est ça qui est important. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est, qu'il rémunère, qu'il récompense, qu'il bénit ceux qui le cherchent. Vous voyez? Et c'est important ça, parce que dans l'Épître aux Hébreux, ça remplit une grande place. L'auteur va rappeler, par exemple, que dans le désert, en Israël, bien plusieurs se sont privés de la bénédiction de Dieu parce qu'ils ont défailli sur ce plan-là. Ayez la foi. Christ a accompli les choses. Il est aujourd'hui à la droite de Dieu, à la droite de la majesté divine. Et il intercède pour vous. Et il importe bien de ne pas défaillir dans la foi. Regarde ce matin à Jésus. Et approchez-vous, non pas restez à distance, non pas, vous avez failli. Non, le message c'est approchez-vous du trône de la grâce pour être secouru dans tous vos besoins, obtenir miséricorde, trouver grâce, et un peu plus loin, approchez-vous, et nous avons au moyen du sang de Jésus un libre accès dans le sanctuaire. Voilà, le juste vivra par la foi, c'est le message adressé aussi à ceux qui passent par l'épreuve. Et puis, une dernière réflexion sur ce texte de l'Écriture tel qu'il apparaît pour la première fois sous la plume du prophète Habacuc lui-même. Tenez, lisons-le rapidement dans le livre d'Habacuc. C'est au chapitre 2 de son livre que l'on trouve cette affirmation. Habacuc, chapitre 2, et au verset 1er. Habacuc, chapitre 2. Verset 1er. Voilà, si vous avez du mal à trouver le livre d'Habacuc, c'est juste après le livre de Nahum. Je ne sais pas si c'est plus utile. Voilà, Habacuc chapitre 2, verset 1er. Voilà ce que dit le prophète. « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait, ce que je répliquerais après ma plainte. » L'Éternel m'adressa la parole et il dit, « Écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. » Et voilà ainsi, la première fois où, dans l'Écriture, nous trouvons ces paroles, c'est ce prophète Habacuc qui les a prononcées à une époque particulière. Le prophète était particulièrement troublé. C'était un homme, Habacuc, qui vivait dans le royaume de Juda, le royaume du sud. Et voilà, tout ce qu'il voit, ça le trouble. Il voit le trouble, il voit les guerres, il voit l'injustice, même au milieu du peuple d'Israël. Alors bien sûr, ça le trouble, il ne comprend pas. Mais c'est un homme spirituel, il a une démarche, il s'adresse à Dieu, il lui expose les choses. Il a l'honnêteté de lui dire « je ne comprends pas ». Et on le découvre là, il est à son poste et Dieu va lui parler. Et c'est beau, savoir que Dieu peut nous parler, qu'on ne cherche pas Dieu en vain. Dieu va s'adresser à Habacuc et il va lui dire « voilà, je vais en réalité envoyer un jugement ». Et tout ce que Dieu va révéler à Habacuc dans un premier temps n'a rien de réjouissant. Dieu va lui révéler que l'heure est venue pour le jugement divin de se manifester. C'est le peuple de Babylone, les Chaldéens, cette nation sanguinaire, puissante, bien à laquelle Dieu va ouvrir les portes du monde entier. Il va se répandre et même le royaume d'Israël, même le royaume de Juda va être envahi. Et voilà, Habacuc ne comprend pas. Il réplique, il dit à Dieu, mais c'est pire que ce que je pensais. Et c'est alors que Dieu lui annonce, voyez cette parole, le juste vivra par la foi. C'est-à-dire que malgré ce que nous voyons autour de nous, malgré nos circonstances extérieures, Dieu demeure le même. Dieu demeure le même, non seulement il contrôle les circonstances, les temps et les circonstances, mais il contrôle également notre vie. Voilà, il faut bien être conscient de cela. Et pour tous ceux qui se confient en lui, eh bien Dieu va manifester sa fidélité d'une manière ou d'une autre. Il y a ce livre curieux de l'Écriture, le livre d'Abdias, c'est une prophétie de jugement. Puis d'un seul coup, au milieu d'un panorama de jugement, il y a cette parole extraordinaire. Voyez, l'Éternel est bon. Il est un refuge pour ceux qui se confient en lui. Il connaît tous ceux qui se confient en lui. Le prophète Habacuc, voyez, va recevoir cette parole et ça va lui faire du bien. Nous l'entendons, lui, l'homme perplexe du début du livre, annoncer à la fin de ce livre prophétique, ben oui, c'est vrai, le figuier ne donnera pas son fruit, la vigne ne produira plus rien, l'olivier, les brebis, les bœufs manqueront, mais il affirme, moi je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Alors, l'Éternel, le Seigneur est ma force, il rend mes pieds semblables à ceux des biches, il me fait marcher sur mes lieux élevés. Voilà, bien que cette parole nous fortifie également, le juste vivra par la foi, même au milieu de circonstances qui nous dépassent, parfois défavorables, nous demeurons fermement, voyez, plantés dans le Seigneur. C'est lui qui nous conduit là où il le veut, il saura le faire dans sa fidélité. Je propose de nous recueillir quelques instants et de prier. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, de ce que tu nous as laissé, ta parole, pour que notre foi soit fermement établie sur elle. Et oui, nous avons fait cette expérience. Nous ferons encore que le juste vivra par la foi. Merci de ce que tu nous as appelé sans qu'il y ait en nous quelque mérite, quoi que ce soit pour attirer ta faveur. Nous avons placé notre foi en Jésus-Christ et nous reconnaissons que c'est le seul refuge que nous avons, celui de saisir l'espérance qui nous était proposée en lui. Nous prions pour que tu nous permettes de demeurer fermement établis sur ce fondement, sans nous en détourner, que comme nous avons reçu Jésus, nous marchions en lui jusqu'à la fin. Nous savons bien que c'est toi qui nous as appelé à ton royaume et à ta gloire, que toute bonne œuvre que nous pouvons produire, c'est toi qui l'accomplis au travers de nous. Il n'y a aucun mérite. Notre paix, notre repos, notre assurance demeure dans le sacrifice de Jésus seul. Merci Seigneur également pour ton aide, ton soutien dans les épreuves, les difficultés, les persécutions même que nous pouvons rencontrer. Nous désirons faire en sorte qu'elles ne découragent pas notre âme, mais nous approcher de toi, tu es capable de compatir, de secourir. Nous avons si souvent expérimenté ta bonté, ton relèvement. Merci de ce que, au milieu de toutes les circonstances adverses dans lesquelles nous pouvons être plongés, confrontés, c'est toi qui fortifie, qui dirige aussi l'âme de ceux qui s'attendent à toi. Oui, tu es bon, tu connais ceux qui se confient en toi, tu es un refuge au jour de la détresse, qu'à ton nom revienne la gloire en Christ. Amen. Voilà,